culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à tous et bienvenue au Culte Espoir. C'est très chouette de pouvoir partager à nouveau un temps avec toi, cher auditeur. Merci de nous accueillir où tu te trouves pour passer ce temps de culte ensemble. Aujourd'hui dans le studio, je suis accompagnée par Mildred et Joachim. Bonjour l'équipe.
Bonjour.
Salut Marilyn.
Alors, vous êtes prêts ?
Prêts.
À fond.
Ensemble, nous avons le privilège d'accueillir notre orateur pour les 4 prochains cultes. Il s'agit de Rivan Dos Santos. C'est un beau défi que tu as accepté de relever. Un grand merci.
Bonjour Marilyn et merci de l'invitation.
Avec plaisir et nous réjouissons de t'entendre. Pour te présenter à nos auditeurs, si je ne me trompe pas, tu es brésilien. C'est quelque chose à noter dans le studio aujourd'hui. Tu es passionné d'histoire, des religions, du christianisme. Mais il y a sûrement beaucoup plus de choses à dire. En quelques mots, voudrais-tu rajouter des choses ou préciser pour nos auditeurs?
Voilà, juste l'essentiel. Je suis pourtant d'origine brésilienne. Je suis en France depuis une trentaine d'années. Je suis marié, père de 3 garçons. J'ai étudié l'histoire générale au Brésil. Ensuite, j'ai étudié à l'Université de Genève l'histoire, l'archéologie, l'histoire ancienne, qui c'était ma passion. Ensuite, un doctorat à Grenoble. Et je suis professeur à la faculté de théologie en histoire des religions, histoire de l'Église et Bible et archéologie.
Oh, et ben, plein de belles choses. Et aujourd'hui, tu nous proposes quatre thèmes différents pour cette série. Et aujourd'hui, eh bien, on va partir à la découverte de l'importance des femmes aux yeux de Dieu. C'est un beau sujet. Ouais. Nous nous réjouissons de t'écouter. Que Dieu puisse toucher, parler et se révéler à travers cette émission pour que notre vision soit enrichie. Et pourquoi pas transformée, si besoin.
Pour la chronique de cette semaine, je me suis rappelé un article de journal que j'ai pu lire en période de Noël qui parlait d'une histoire triste, mais qui finit quand même bien. Je plante le décor. Lausanne, le 23 décembre, la veille du réveillon de Noël. La ville était illuminée par ses lumières scintillantes de fête. Les passants, finissant leur dernier achat, étaient en chemin pour préparer la veillée et un bon repas. On pouvait deviner de la joie et une certaine euphorie sur le visage de ces badauds. Mais voilà, en cette période festive, tout le monde n'a pas le cœur en paix. Malheureusement, à la période des fêtes de fin d'année, trop de personnes dépriment. La tristesse les envahit, la fête devient corvée ou les renvoie à leur solitude. Parmi eux, un homme d'une 60aine d'années, ayant 6 enfants, était fortement alcoolisé. Il broyait du noir et a décidé de se rendre en transport public sur un pont de la ville de Lausanne afin d'y commettre un acte désespéré.
Oh là là.
C'était sans compter sur un miracle. Notre homme était monté dans le mauvais bus et avait débarqué sur un pont pas moins haut, mais où étaient postés des sauveteurs du collectif Feu de la Solidarité qui exerçait à cet endroit. Cette organisation existe depuis plus de 40 ans. Les bénévoles se positionnent sur le pont Bessières durant les périodes de fête et se relaient jour et nuit pour accueillir des personnes désespérées.
Malheureusement, il est fréquent qu'à cet endroit, des hommes et des femmes tentent de mettre fin à leur vie.
Oui, ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. L'homme, déterminé à sauter du pont, s'est rendu directement sur les barrières et a commencé à les enjamber. Deux sauveteurs des plus costauds, l'article insiste bien sur cet adjectif, ont essayé avec difficulté de l'en empêcher. Cet homme, à la force décuplée, leur a donné du fil à retordre. Ses deux pieds ne touchaient déjà plus sol. À ce moment-là, une femme de cette belle association s'est rendue auprès de lui et c'est avec calme et douceur qu'elle a réussi à raisonner notre infortuné. Plus tard, l'homme a été pris en charge, à nouveau par une femme, du corps de police. Il s'est senti apaisé par la présence féminine. Mes amis, chers auditeurs, si Dieu n'a pas créé la femme pour aider l'homme, alors que pouvons-nous dire de ce fait divers? Est-ce que toutes les femmes ont le don de calmer les situations difficiles? Malheureusement pas.
Oui, c'est vrai, mais heureusement qu'il y a quand même des personnes qui agissent différemment, n'est-ce pas? Et là, dans l'histoire que tu nous as racontée, par exemple, on peut voir que quand une personne se laisse guider par le Saint-Esprit, se laisse guider par de bonnes intentions, elle peut apaiser n'importe quelle situation.
Oui, alors je suis d'accord, Mildred. Il me semble que les femmes ont des capacités relationnelles bien plus développées que les hommes, et oui, elles peuvent apaiser avec un simple sourire. Mon mot de la fin pour les femmes.
Vas-y, dis-nous.
Ah, chère auditrice, Dieu t'a donné des capacités, des dons et des talents. Oui, il a fait cela pour chacune des femmes. Pas besoin de se comparer les unes aux autres. Mais tout simplement, faites la différence là où vous vous trouvez. Peut-être un sourire, quelques mots bien inspirés ou une écoute bienveillante, tout simplement.
Que dit la Bible sur les femmes? Dans la Bible, nous trouvons plusieurs récits sur différentes femmes. Nous pouvons nous inspirer de quelques exemples et il vaut mieux passer très loin de quelques autres. Aujourd'hui, je partage avec toi, cher auditeur, le texte qui se trouve dans Proverbes 31, verset 30. Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte le Seigneur, elle seule, est digne de louange. La femme que Dieu approuve est celle qui s'inquiète d'avoir un bon caractère, celle qui fait des efforts pour aimer Dieu et son prochain. Vous savez, la personne honnête, correcte, gentille, celle que tout le monde rêve d'être. Je pense qu'on a tous déjà entendu parler de l'importance de prendre soin et de chercher à nourrir ce qui est essentiel, bien choisir ce qui prendra de la place dans nos cœurs et nos cerveaux. Faire attention à notre façon de parler aux autres, plus que de notre apparence. Tout ça est vrai. Attends, cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller et ne pas prendre soin de son apparence. Non, ce n'est pas ça. Concentrons-nous sur l'essentiel et soyons belles à l'intérieur et à l'extérieur. Respectons Dieu et nous serons approuvés par lui et les personnes qui nous entourent pourront tout simplement bénéficier du parfum qui exhale nos personnes.
Merci pour cette belle promesse, Mildred, qui nous invite à être attentive à la place de Dieu dans nos vies. Et en complément à ta promesse, eh bien, ce chant que je vous partage maintenant nous rappelle que notre valeur n'est pas basée sur notre réussite, nos accomplissements, mais sur la valeur que Dieu nous donne. Ce chant a été composé par un artiste brésilien et traduit en français. C'est d'ailleurs un des chants préférés de notre cher chroniqueur. Et peut-être que tu le connais toi aussi, Rivan. Je nous laisse plonger dans les paroles de ce chant interprété par Joel Andrés, Ta valeur, avec une pensée pour tous nos amis brésiliens.
Au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi, ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber.
mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi. Quel mystère! Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu abandonnes, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait
auditeur. Comme tu sais, chaque semaine nous t'apportons un témoignage. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Pierre Péchou, responsable fédérale du ministère des Femmes pour l'Église Adventiste France Sud. Elle était aussi pasteur, d'ailleurs c'était la deuxième femme à devenir pasteur dans le sud de la France.
Et c'est super,
oui.
Aumônière pendant 10 ans dans une prison à Marseille, elle a travaillé auprès de la gente masculine et aussi auprès de femmes dans le milieu carcéral. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans notre studio.
Merci.
J'ai déjà dit quelques mots sur toi, mais aimerais-tu te présenter à nos auditeurs?
Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est que je suis mariée, maman de deux filles. On parle des femmes, hein. Anne, maman de, que tu connais d'ailleurs, mes filles, tu les connais.
Bien sûr, Loredane et Emma.
Oui, tout à fait. Sinon je suis psychopraticienne, donc thérapeute en psychologie et en relations d'aide par téléphone.
Intéressant.
Oui.
Merci. Et parle-nous de ton ministère auprès des femmes.
Alors ce ministère, alors je ne sais pas si c'est au niveau des femmes de l'Église ou au niveau des femmes en général, parce qu'il y a le ministère dans l'Église bien sûr, hein, pour lequel je suis très engagée. Et puis il y a ce ministère aussi qui m'a appelée pour être aumônier. Donc au début c'était aumônier parmi les hommes. Et puis au Beaumet, donc à Marseille, la situation a évolué et donc j'ai remplacé l'aumônière qui est partie. Donc on dit aumônière, hein, entre les murs. Alors je sais qu'on devrait dire aumônier, mm-hmm. mais en fait entre nous on dit aumônière, hein, c'est plus simple. Pour ce témoignage, je vous ai apporté des petites histoires que j'ai écrites.
Oui, on aime ça.
Hein, je peux les lire. Hein.
Oui,
voilà, donc ce sont des brèves que j'ai écrites comme ça, quelques-unes, pour, comme ça vous allez voir un peu l'ambiance. Alors je me permets de lire la première.
Allons-y.
J'ai reçu dans ma boîte aux lettres une demande. Sur une feuille volante, elle a écrit qu'elle voulait me voir, voir une aumônière protestante. J'ouvre sa porte et elle est là, en train de boire un café. Je me présente et elle me lance un large sourire. Elle me dit « Je suis protestante moi aussi ». Je lui réponds « Alors on se tutoie ». Je m'assois sur le bord de son lit, elle m'offre un café. Puis elle me montre sa Bible. Elle la lit tous les jours. Elle m'expliquera pourquoi elle est là, mais elle n'a pas la force de changer. Je reviens régulièrement la voir et elle est inscrite au culte. Elle vient d'une famille protestante. Son père est parti et sa mère prie beaucoup pour elle. Elle a besoin de se réconcilier avec Dieu, mais est-ce que Dieu lui pardonnera? Elle est un élément important dans nos cultes du dimanche. Elle aime chanter et stimule les filles. Un jour, elle vient avec un texte lu en semaine. Elle se permet de dire aux femmes ce que je ne permets pas de faire, du moins directement. Je lui propose de venir dans sa cellule pour prier pour les autres détenus qui sont sur ma liste, et cela l'enthousiasme. Elle se culpabilise particulièrement du mal qu'elle a fait et qu'elle fait à sa mère en étant en prison pour la deuxième fois. Je lui parle de moi, lui disant que j'ai deux filles. Je fais tout ce que je peux pour qu'elles aient envie de suivre Dieu, mais je ne le saurai que quand elles prendront leur vie en main, et peut-être avant. Les parents font ce qu'ils peuvent. Elle est maman, elle comprend, elle aime ses 5 enfants. Au fur et à mesure du temps qui passe, elle se fait une autre place dans la détention. Elle prie avec les unes et les autres, descend en promenade pour aider et lire la Bible. Au bout de 3 permissions, elle me dira, toute heureuse, que son compagnon, le père de ses enfants, afin de se marier, enfin, il prie au téléphone. Voilà.
Donc ton ministère consistait à discuter avec ces femmes, à parler de Dieu, à rassurer un peu leur cœur, c'est ça, à les écouter?
Alors en tant qu'aumônier, on va dans les prisons pour parler de Dieu, pour expliquer comment il peut s'adresser à ces femmes derrière les barreaux, dire qu'il est là et qu'il les aime.
Alors, c'est ça, ouais, qu'il les aime malgré tout ce qui s'est passé dans leur vie, mais que Dieu est là pour eux.
Oui, oui, alors je ne sais pas comment, Rivan, tu parleras toi de ces femmes peut-être dans la Bible, mais Dieu, il a toujours été à la rencontre des femmes comme elles étaient, et aussi des hommes.
Tout à fait.
Et c'est cette rencontre qui est primordiale, et nous, en tant qu'aumôniers, on est là pour permettre cette rencontre, ou que ce dialogue puisse continuer malgré les aléas, malgré la culpabilité. Mm-hmm. Et on essaye d'expliquer à ces femmes que cette culpabilité, elle est bien, entre guillemets, si elle amène à Dieu. Sinon, on s'écroule sur soi.
Ah, est-ce que tu as une autre histoire?
Alors, j'en ai 2 autres. Alors, okay. La deuxième, d'accord? De temps en temps, je ressors d'une cellule débordante de joie. Il y a certaines personnalités qui se révèlent derrière les barreaux. Cela fait quelques semaines que nos discussions sont plus personnelles. Elle ne voit plus la psychiatre et seulement la psychologue. Si elle veut faire face à ses problèmes, dit-elle, elle ne peut plus se transformer en zombie, ne plus ressentir et juste s'abrutir avec les médicaments. Nous en parlons toutes les deux. Avant de rentrer en prison, raconte-t-elle, elle vivait dans une spirale de l'apparence. Se retrouver ici, dans une cage, regarder son visage défait, ses yeux gonflés, son laisser-aller et sa léthargie a été une période très difficile. C'est de croiser quelqu'un comme elle, un zombie, qui a été le déclic. Elle jette les cachets dans les toilettes. Alors commence un temps qui prend un autre sens. Un temps qui s'anime et qui l'anime, et non plus un temps qui passe et qui s'étire. Elle dit qu'écrire lui permet de prendre du recul sur ses émotions, de s'arrêter sur les personnes qui ne l'ont jamais abandonnée, de découvrir des personnes qui sont en souffrance. Dans ce désert, elle y voit la présence de Dieu. Je la quitte en sachant qu'elle va écrire à un jeune cousin de 23 ans en détresse. Il est malade, il a essayé de mettre fin à sa vie. Elle veut lui dire que du fond de sa prison, elle veut se battre pour lui et avec lui. Elle a 40 ans, elle sort bientôt. Elle a découvert qu'elle aime la vie, qu'elle aime sa famille et que Dieu est là. Voilà.
Hein, c'est... Qu'est-ce que ces expériences que tu as vécues là-bas ont pu t'apporter à toi personnellement?
Alors, je crois que par rapport à nos vies, par rapport à nos ministères, on développe quelque chose de particulier de Dieu. Et moi, j'arrive à développer quelque chose de particulier de l'amour de Dieu. Je pense que quelqu'un qui est à l'hôpital pourra développer quelque chose de l'espoir, de l'espérance. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut aimer n'importe qui. Parce que quand j'étais avec des hommes, il y avait aussi des pédophiles. Et je me suis attachée à eux. Parce que quand on est aumônier, on rentre dans la vie de quelqu'un, dans son intimité. Et on rencontre un cœur avant de rencontrer peut-être un monstre, avant de rencontrer peut-être ce que la société montre du doigt. Et on rencontre un cœur déboussolé, quelqu'un désespéré. Et je crois que voilà, là où on est, Dieu nous donne quelque chose de lui de particulier pour qu'on accompagne des personnes dans leur état en fait. Et c'est tellement magnifique de pouvoir être là comme spectateur mais aussi acteur de ces rencontres.
Merci beaucoup, très beau témoignage. Je te remercie beaucoup d'être venu ici pour nous parler de l'histoire de ces femmes et de ton expérience auprès d'elles. Merci beaucoup. Le chant qui suit a été composé pour les femmes brisées et blessées. L'artiste Erika Doumoué eut l'occasion d'échanger avec notre invitée.
Oui.
Et ces échanges ont contribué à inspirer ce chant.
Sur ma tête un turban de fête, de ton amour et de ta joie. Devant toi, je relève la tête. À la maison du Père, j'ai un libre accès. Et c'est ta bras ouvert qui m'accueille dans son palais. Ah, je t'ai
Pourtant, dans la continuité de cette réflexion sur la valeur de la femme, nous allons réfléchir maintenant sur l'importance de la femme aux yeux de Dieu. Bien sûr, ça nous paraît évident de dire cela. Tout a une valeur aux yeux de Dieu. C'est lui le créateur.
Mm-hmm.
L'homme, la femme, les enfants, les vieillards, même les animaux, même les plantes, tout a une valeur. Alors pourquoi réfléchir sur cela ? Quand on pense à la société où nous vivons quand même en Occident, même en Europe, même aux États-Unis, la femme n'a pas la même place que l'homme. Je ne dis pas simplement de... ce n'est pas nécessaire qu'une femme fasse certains travaux, même physiquement, c'est plus approprié pour un homme. Même on discute les questions des salaires déjà. Lorsqu'on fait la... une femme fait le même travail qu'un homme... Même en Suisse, en France, des fois, elle ne gagne pas la même chose.
Ah ouais, son salaire est inférieur.
Voilà, il y a quelque chose là derrière. C'est comme si elle n'avait pas la même valeur. Et l'Église aussi, depuis 2000 ans. La femme n'est pas pasteur, la femme n'est pas prêtre, prêtresse. On peut dire oui, mais Dieu n'a pas choisi dans l'Ancien Testament des femmes pour à côté d'Aaron, c'est vrai. Jésus n'a pas choisi des femmes pour être apôtre, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la mentalité de Dieu ou c'est parce que les gens n'acceptaient pas et Dieu, pour ne pas blesser, pour ne pas créer la confusion...
N'est pas choqué la culture de l'époque.
Exactement. Il y a certains pays que j'ai connus, que je ne vais pas citer, où nous étions avec des étudiantes en théologie et dans notre église, elles n'ont pas pu prêcher à l'intérieur de l'église. Elle est allée pour faire des conférences et heureusement que c'était des pays chauds. On a mis les chaises à l'extérieur pour qu'elle puisse parler.
Merci.
Au moment de manger, les hommes étaient assis, les femmes qui attendaient debout pour manger après. Alors, dans notre milieu déjà, ça existe. Alors, cette réflexion, elle est double. C'est pour vous, les femmes, pour que vous soyez conscientes d'une valeur. Mais c'est magnifique. C'est beaucoup plus beau que nous ne pouvons imaginer. Vous allez voir, c'est par les textes. Et vous allez voir comment Dieu vous a imaginé, vous a pensé. C'est vraiment quelque chose de très, très beau.
Ah, on a hâte. Vas-y, montre-nous.
Et pour nous, les hommes, c'est pour traiter le mieux possible la femme. Parce qu'on va voir que Dieu compare la femme comme son église. Et que l'homme doit aimer et traiter la femme comme Jésus traite son Église. Alors, c'est d'une beauté incroyable. Et aussi parce qu'il y en a qui disent, oui, la Bible, c'est la Bible, la civilisation judéo-chrétienne qui a écrasé la femme. C'est l'être humain après l'entrée du péché. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas la pensée de Dieu. Alors, on va suivre quelques versets bibliques, parce que la Bible est beaucoup plus claire. On va commencer pour voir comment Dieu a imaginé la femme, comme il a créé, comme il a présenté. C'est des textes que nous connaissons, mais on va voir en détail. Le premier, c'est Genèse 2, 18. Les premiers chapitres, c'est un résumé de la création. Dans les chapitres 2, on va détailler comment il a fait réellement, comment il a procédé, surtout... Pour l'apparition de l'homme et de la femme. Le Seigneur Dieu dit, Genèse 2, 18, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Alors, Dieu avait créé les choses, tout était bon, tout était bon, tout était bon. L'entrée, le péché n'est pas entré dans le monde et il a dit, c'est pas bon, c'est pas complet. Et il a voulu retarder la création de la femme pour que l'homme sente cette absence. La femme n'a jamais senti l'absence de l'homme. Mais l'homme a senti. Parce que l'homme avait déjà une position, même s'ils étaient égaux, c'est l'homme qui était le responsable de la planète. D'ailleurs, quand les deux ont péché, c'est à cause de l'homme que le péché est entré dans la planète et pas à cause de la femme.
C'est ça, la faute.
Il nie à cause de Dieu. La Bible dit au chapitre 3, à cause de toi, Adam, la terre sera maudite. Parce que c'est toi le responsable. Si tu ne mangeais pas, le péché n'allait pas entrer. On a pourtant accusé la femme d'être l'instrument de tous les mâles, ce n'est pas déjà biblique. Pourtant, Dieu a voulu que l'homme sente cette absence. Déjà, j'ai partagé en plusieurs parties l'honneur du matériau. L'homme a été créé de l'argile, de la poussière. La femme a été créée de l'os de l'homme. C'est déjà plus noble. On peut penser que c'est juste une rigolade, mais c'est quelque chose que nous devons penser. Hein. Je vais laisser les versets pour les auditeurs après, ceux qui ne sont pas très familiarisés. Consultez la Bible, Genèse 2, 7 et 19. « Le Seigneur modela l'homme avec la poussière prise du sol. Il en souffla dans ses narines le souffle de vie. Il a fait la même chose avec les bêtes et les oiseaux. Il a créé l'homme, déjà, à l'extérieur du jardin. » Ok, ça c'est très important. L'homme a été créé à l'extérieur. Après, Dieu va prendre Genèse 2, 21-22, une côte de l'homme et va créer la femme. Mais avant, la Bible nous dit, Genèse 2, 7-12, que Dieu planta un jardin. Imaginez-vous la beauté de ce jardin.
Ah, il devait être magnifique.
Que la Bible appelle jardin de Dieu. N'appartient, c'est le seul morceau géographique qui n'appartenait pas à l'homme. Jardin de Dieu, au Éden, au paradis, c'était à Dieu. La Bible dit, « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait formé. » Vous voyez, il a formé à l'extérieur, il va placer l'homme à l'intérieur. Il a fait pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, des fruits délicieux. Imaginez. Dans ces pays, on trouve de l'or de qualité, de la résine, du parfumé, et pierres précieuses, que la Bible décrit. Pourtant, la Bible va décrire les jardins avec des fruits, des fleurs, parfums, pierres précieuses. Tout ce que les femmes aiment.
Il était sensible à cela. Hein,
c'est intéressant. Dans la nature, c'est plus les femmes qui aiment des bouquets de fleurs, des parfums, des bijoux que les hommes. Mm-hmm. Et il y a quelque chose déjà, une explication biblique. Elle n'est pas encore là. Il est en train de préparer la venue de la femme. Ok? Et la Bible dit, Genèse 2, 22, « Le Seigneur va former la femme à l'intérieur du jardin. »
C'est drôle, ça.
Pourtant, lorsque l'homme vient au monde, il ne voit pas grand-chose parce que la Bible dit que les choses n'avaient pas encore poussé. Mais lorsque la femme vient au monde, elle voit déjà un être humain avec un grand sourire. Elle sent des parfums, elle voit l'or, les bijoux, elle voit toute cette beauté, ces fruits. Et Dieu a voulu que l'homme sente cette absence, qui même Dieu ne peut remplacer. L'homme avait tous les animaux, avait toute cette beauté, il ne savait même pas qu'est-ce que c'était le péché ou l'absence d'une personne. Dieu était là, les anges, et Dieu a mis un petit programme dans son cerveau, tu ne pourras pas être heureux s'il n'y a pas une femme là. Je veux cela. Et c'est lorsque la femme apparaît qu'il a dit « Ah, maintenant, oui, c'est complet. »
Il se sentait complet.
C'est beau. Alors, on va rapidement à cause du temps. L'objectif, la femme a été créée pour être une aide pour l'homme. Et des fois, nous disons « Waouh, ils étaient égaux, mais c'était l'homme qui était le responsable de la planète devant Dieu. » Mais c'est le même rôle, la femme a le même rôle de Jésus quand il était sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il dit, moi et les pères, nous sommes un. Mm-hmm. Et pourtant, il avait sa volonté. Je ne fais pas ma volonté, je fais celle du Père, parce que c'est meilleur. Hein? Et la Bible dit, les deux vont devenir une seule chair. Genèse 2, 24. Chacun a sa personnalité, mais pour un projet commun. Et qu'est-ce que la Bible dit? En Luc 22, 4, 27, je vais résumer. Les disciples discutaient qui étaient les plus grands, les plus importants. Parce qu'ils pensaient que Jésus serait roi, qui va prendre les meilleures places. Mm-hmm. Jésus dit, arrêtez, ça c'est les êtres humains qui pensent comme ça. Parmi vous, les plus grands vont servir. Celui qui est plus grand, plus intelligent, plus fort, va servir l'autre. Alors ça veut dire qui servir? Si la femme a été faite pour servir l'homme, dans la tête de Dieu, c'est elle est plus peut-être grande. Plus forte.
Et ben, tu nous racontes tout, là.
Mais c'est l'homme qui a été là sous un arbre triste avant l'apparition de la femme. Elle n'a jamais senti ça. Elle a beaucoup d'autonomie. On voit aujourd'hui, lorsqu'il y a un couple de très âgés, lorsque l'homme part, la femme se débrouille. Mm-hmm. Mais c'est lorsque la femme part, les petits vieux vont derrière après. Hein? Ouais. Il est moins indépendant, moins fort face à cette relation,
à la solitude.
Pourtant, cette question que la femme a été faite pour être une aide est noble. Celui qui aide, c'est le rôle de Dieu avec nous. Parce que c'est lui le plus grand. Ça veut dire que c'est lui qui sert le plus. Comme il est là-haut, il a tout le monde pour servir. Plus on est haut, plus on a des gens pour servir. Pourtant, c'est beau ce que Dieu a fait pour la femme. Pour l'accomplissement de la promesse, Dieu n'a pas eu besoin d'un homme pour envoyer son fils. Mais il a eu besoin d'une femme. L'ange vient parler à Marie, Luc 1, 30, 35, et elle dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Elle a dit, mais comment est-ce que je vais avoir un fils? T'inquiète pas, le Saint-Esprit va placer les fils dans ton corps, il faut juste que tu sois d'accord. Elle a dit, je suis d'accord. Parce qu'elle aurait la honte d'expliquer tout cela après. Mais Dieu pourtant n'a pas eu besoin d'un homme, mais il a eu besoin d'une femme pour envoyer son fils pour notre salut. Et la Bible dit, il s'est rappelé fils de Dieu. Imaginez-vous, on ne veut même pas entrer ici parce qu'à cause du temps, mais c'est fou dans la mythologie grecque qu'ils imaginaient que les dieux pouvaient avoir des enfants avec des femmes, ou les déesses, c'était les héros. Et là, Marie va avoir un fils qui est fils des dieux. Pourtant, on ne peut même pas imaginer les privilèges et la responsabilité de confier son fils à l'éducation de cette femme. Aussi, la première révélation à qui Jésus, sur la terre, après le baptême, il a dit clairement, c'est moi le Messie. À une femme, la femme samaritaine, et qui pourtant ne vivait pas une vie comme celle-là.
Une vie pas très correcte.
Mais je vais vous dire une chose avant que j'oublie. Le seul groupe de personnes que Jésus n'a jamais fait une réprimande, une critique, c'est la femme.
Il a
critiqué,
vrai,
oui, il a critiqué les disciples, il a critiqué même ses frères, il a critiqué les docteurs de la loi, mais il n'a aucune critique à aucune femme. Même quand elles font des bêtises, Jésus ne critique pas.
Il ne faut pas dire ça très fort, hein, quand
Et
même.
Et c'est incroyable comme il les honore, comme il les respecte. Pourtant, la première personne qui l'a dit, c'est moi le Messie, Jean 4, 18, 25, 26, c'est moi le Messie, moi qui parle avec toi. Il venait de parler avec un docteur, Nicodème. Il a juste dit, Dieu a envoyé son fils discrètement, il n'a pas dit, c'est moi. Il a dit entre les lignes, mais à cette femme, il a dit, c'est moi qui parle avec toi. Et elle a appelé toute la ville pour écouter Jésus-Christ. La première apparition de Jésus lorsqu'il est sorti du tombeau à une femme. Et deux évangiles nous racontent cela. Ressuscité le matin, Marc 16, 9 à 11, du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui l'avaient été avec lui. Mais elle dit, on ne croit pas. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien, c'est Matthieu 28, 5, 9 et 10, qui Jésus va ressuscité après les sabbats, lorsque les premiers jours de la semaine allaient commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie sont allées au sépulcre pour laver Jésus parce qu'elles n'avaient pas eu le temps. Mais Jésus vint au-devant d'elles. Il dit bonjour, salut, oh, voilà. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui vient.
C'est lui qui prend l'initiative.
C'est lui qui prend l'initiative. Ce n'est pas parce qu'ils l'ont trouvé par hasard. Il a voulu apparaître d'abord aux femmes. Et dire, maintenant, vous allez être les premières apôtres. Va dire que je suis ressuscité. Va dire à mes disciples. Les rôles de l'homme, de la femme, c'est un verset qui est un peu controversé. Éphésiens 5, 22, 23. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour les Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme... C'est ça les termes. Les termes soumises, on ne sait pas quoi, c'est il y a 2000 ans. Il faut être intelligent pour savoir que ce n'est pas la soumission. Voilà. La Bible est en train d'expliquer comme vous l'êtes au Seigneur. Est-ce que c'est une humiliation que moi, Rivan, toi, Milred, tu sois soumise à Jésus-Christ?
Non, pas du tout.
C'est notre plaisir.
C'est
parce qu'il sait plus que nous. Il nous valorise déjà tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Mais voilà. Car les maris et les chefs de sa femme, nous sommes à l'époque, hein, les Romains, même les femmes romaines, grecques, ne sortaient pas au marché toutes seules comme ça. C'était l'époque. Comme les Christ et les chefs de l'Église. Les Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, comme l'Église se soumet au Christ. Voilà, j'appelle à l'intelligence de la mise à jour, un terme qu'on connaît, de ne pas rester soumettre en tout. Non, mais il est en train de parler de cette époque, mais comme au Christ. Marie, aimez vos femmes. Il demande beaucoup plus de nous. Il ne dit pas aux femmes d'aimer les maris.
Il faut respecter.
Respecter. Mais nous, nous devons aimer. Et c'est plus difficile d'aimer. Non,
oh, c'est simple.
Non, pas difficile d'aimer une femme. L'amour, c'est beaucoup plus facile d'être soumis, même un gars révolté, un esclave, là, je ne suis pas d'accord, mais bon, pour ne pas subir les conséquences, c'est facile. Mais aimer,
voilà. Ce n'est pas ça.
Il faut chercher cet amour. Aimez vos femmes comme les Christ aimaient l'Église. Pourtant, ce verset nous dit tout. C'est un contrat. Comme l'Église fait au Christ, l'Église fait à l'Église, et chacun a son rôle, mais il n'a pas d'une question d'infériorité. Et pour conclure, la Bible nous dit, par exemple, en Galates 3, 26, 28, et l'Église n'a pas su réévaluer, « Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés, on va parler plus tard. » Il n'importe donc plus qu'on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme. En effet, vous êtes tous un dans la communion de Jésus-Christ. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il y avait, pour être prêtresse ou prêtre, il y avait ses codes, la mentalité. Même la mentalité, c'était œil par œil d'un pardon. Et après, Jésus a cassé ça. Maintenant, il a dit, maintenant, c'est fini. La femme peut faire le même travail spirituel pour Dieu que l'homme. C'est l'Église qui n'a pas su assumer cela, qui n'a pas eu le courage. Parce que dans les mêmes versets dit, il n'y a ni juif ni grec, ça on accepte. Il n'y a ni esclave ni patron, pour les seigneurs, ok, pour nomination aux églises. Ni homme ni femme, ah non, non, ça on garde. Ce n'est pas logique. Et les derniers versets que j'aimerais vous présenter, c'est l'honneur de comparer la femme à l'épouse du Christ. Qu'est-ce que Dieu a trouvé pour dire, qu'est-ce que je vais présenter comme l'épouse de mon fils, l'Église? Une femme. Apocalypse 21, 9 à 11. Vous voyez, dès le début du premier livre jusqu'au dernier, la femme est quelque chose de merveilleux pour Dieu. L'un des sept anges va me dire, « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Voilà à quoi Dieu compare l'épouse de son fils à une femme. Pourtant, il faut que nous soyons conscients que c'est l'entrée du péché, que c'est les hommes, parce qu'à partir de l'entrée du péché, c'est l'homme qui va travailler. Il a plus de muscles. La femme est plus résistante face aux maladies. C'est déjà prouvé, parce qu'elles vont être maman, et normalement, les filles, les bébés filles sont plus résistantes aux maladies que les garçons, par exemple. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu plus de femmes que d'hommes, même dans des pays qui n'ont pas de guerre. Mais physiquement, pour des muscles, nous avons plus, parce que nous avons été adaptés pour le travail, comme Dieu a fait. Et comme l'homme allait travailler et gagner les pains, la femme allait être maintenant soumise à l'homme, parce qu'elle ne pouvait pas faire cela. Et à partir de là, ça a commencé la domination. Mais ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Et j'aimerais garder cette image, que même en tant qu'homme, j'essaye d'éduquer tous autour de moi et mes garçons aussi. Quelle beauté quand Dieu a imaginé. Je vais faire de sorte que l'homme sans une femme ne soit pas complet. Même moi, je ne peux pas couvrir cela. Et qu'il a créé la femme dans les jardins, avec toute cette beauté autour. C'est quand même très romantique. Hein? C'est très romantique. Il a créé l'homme à l'extérieur. Grossier, pas de problème, tu as déjà les chefs, ça va. Mais la femme, avec toute cette beauté. Et je pense qu'à partir de là, nous devrions faire le possible pour traiter la femme avec beaucoup plus de respect à nous les hommes. Parce que normalement, nous sommes plus grands physiquement, nous avons une voix, un physique. Et même si on n'a pas besoin d'agresser, bien sûr, mais le fait de parler déjà un peu avec force comme ça, ça fait peur à la femme. On ne se rend pas compte, mais ça fait peur.
Merci beaucoup, Rivan. Voilà. Merci.
Alors, Rivan, c'est la première fois que tu viens dans cette émission du Culte Espoir. nous avons une chronique toute spéciale réservée à l'invité du jour. C'est « Question et vérité ».
Tu as peur ?
Un peu.
Si tu es d'accord, pour mieux te connaître, j'aimerais te poser quelques questions en rapport avec le thème du culte ou même d'autres sujets concernant ta vie chrétienne. Okay. Questions auxquelles tu pourras me répondre en quelques mots ou plus. Alors dis-moi, quel est ton personnage biblique féminin qui t'inspire le plus ?
Marie. Marie, parce qu'elle était très jeune, selon la tradition, elle devait avoir 14-15 ans, aussitôt que la femme, une fillette, devenait femme, qui pouvait avoir un enfant, on la mariait, pour qu'il n'ait pas le danger de tomber enceinte d'une autre personne. Elle était promise à Joseph, et pourtant, elle accepte cette charge, cette honte dans un village, un tout petit. Déjà aux années 60, 70, quand j'étais petit, une fille qui tombait enceinte, on disait « elle est perdue ». Imaginez-vous, il a 2000 ans. Mmh. Elle savait la honte et personne n'allait croire à son histoire. Mmh. Et pourtant, elle a accepté et elle a été courageuse et elle a accompli très très bien sa mission. Elle a bien éduqué Jésus et voilà.
C'est ton personnage préféré.
J'aime beaucoup. Okay. Elle est courageuse, Marie.
Est-ce qu'il y a une femme qui a particulièrement marqué ta vie chrétienne ?
Oui, ma mère. Parce que ma mère, c'est une femme qui... Elle, avant d'être adventiste, avant ma naissance, 2 ans, elle était catholique. Et les catholiques sont très sérieux, sont très respectueux de l'Église, des pasteurs. Et elle m'a toujours éduqué dans cette mentalité de respecter l'Église, respecter les pasteurs. Et aujourd'hui, je forme de pasteurs. Et beaucoup sont beaucoup plus jeunes. Et des fois, je vais dans les églises de pasteurs qui étaient mes étudiants. Mais je les considère pasteurs. Et voilà, ça, c'est respect pour l'Église et pour les personnes, pour Dieu, bien évidemment. Ma mère...
Elle les a bien inculqués.
M'a bien inculqué. Ah, okay. Mon père a donné un bon exemple, mais c'est ma mère qui ne travaillait pas. Et heureusement, à l'époque, j'étais très content. Elle avait tout le temps pour nous éduquer. Et elle m'a beaucoup marqué, positivement.
Ah, super. Quelles sont les qualités spirituelles que tu préfères chez les femmes ?
C'est la sensibilité de voir les choses différemment de nous, les hommes. Et c'est que je constate dans la femme qu'elles ont une sensibilité, mais elles sont beaucoup plus... je ne sais pas si c'est parce que j'ai... pardon, je suis sensible. Mais elles arrivent à prendre des positions beaucoup plus tranchées que nous, les hommes. Quand il faut prendre une position, elles prennent. Nous, des fois, nous avons trop de miséricorde, je ne sais pas quoi, mais la femme dit non, maintenant, c'est fini avec ça, cette personne, il faut y aller, on y va. J'aime beaucoup parce qu'elles sont... Vous êtes très sensibles, mais en même temps, vous savez trancher. Et j'ai déjà remarqué autour de moi plusieurs femmes, hein, elles tranchent beaucoup plus facilement que nous. Bah. Et ça équilibre. Au moins, ma femme m'a beaucoup équilibré parce que...
Attends, voilà. Il faut que ta femme écoute bien à ce moment. Vas-y, vas-y.
Elle m'a beaucoup équilibré parce qu'elle sait vraiment dire non. C'est elle qui m'a appris à dire
quand
non.
Quand tu hésites,
à dire non.
Elle arrive à...
Voilà, à ne pas trop se donner quand même. Lorsqu'elle m'appuie, elle fait tout. Je peux faire tout mon ministère sans problème. Mais voilà, cette capacité de dire non. La femme, et j'ai dit toujours à mes enfants aussi, lorsqu'une femme dit non, c'est non. Tu n'as pas besoin de courir derrière, c'est fini. Nous les hommes, on peut, ah d'accord, on va... Mais une femme, non, c'est non.
Ah, bah écoute, on va t'inviter plus souvent dans cette émission.
Non, c'est mon expérience. Hein.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé un peu plus de toi avec nous.
Merci à vous.
Et pour continuer, est-ce que tu pourrais prier avec nous pour les femmes et pour ce que
avec
tu t'inspireras ?
Notre Dieu, merci pour ces moments précieux que nous passons ensemble. Merci aussi parce que tu es avec nos auditeurs, nos auditrices. et tu es en train de les bénir aussi, Seigneur. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, surtout beaucoup de femmes, Seigneur, qui sont mal comprises, sont des fois délaissées, mal valorisées. Qu'elles puissent, Seigneur, découvrir en ta parole toute la valeur qu'elles ont à tes yeux, Seigneur. Comment tu les as imaginées, conçues, préparées. Et que tu puisses aussi toucher les cœurs de nous les hommes afin que nous puissions comprendre aussi notre rôle de les aimer, de les encourager et de les protéger là où sera nécessaire. Et merci aussi pour tout ce que les femmes nous apportent, qui nous complètent. C'est comme ça que tu as voulu le faire. Tu puisses pourtant bénir toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient confortées par toi, par ta parole, par ton amour. Je t'ai prié et je te remercie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Nous voilà dans la chronique Action. Aujourd'hui, nous avons vu que la femme occupe une place très spéciale et importante dans le plan de Dieu. On pourrait constater que malheureusement, toutes les femmes ne reçoivent pas le respect, l'amour, l'admiration et la gratitude qu'elles devraient recevoir. La femme a été créée pour être l'aide de l'homme. Tout le monde sait que quand une femme est heureuse, quand elle se sent valorisée, aimée, épanouie, tout fonctionne beaucoup mieux. Et oui, tout de suite, on est de bonne humeur, on entretient une bonne estime de soi, le moral est bon et on est prête à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur nos routes. Alors, quel sera le défi pour cette semaine? Tout simple. Je te propose, chers auditeurs et aussi chers chroniqueurs, de dire aux femmes de vos vies qu'elles sont importantes pour Dieu et aussi pour vous. Faites de compliments et rassurez vos épouses, vos mamans, vos sœurs, vos filles, enfin, toutes les femmes qui vous entourent.
Ok, d'accord. Mais si on n'est pas très doué avec les paroles?
Bah, il n'y a aucun souci, Joachim. Tu peux écrire une jolie carte pour lui dire que tu es fière d'elle et qu'elle a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et ensuite, tu peux aussi lui faire écouter l'émission d'aujourd'hui.
Eh bien, quelle bonne idée! Très bonne action en perspective! Que l'on pourrait aussi donner en retour, n'est-ce pas?
Tout à fait!
Mais ce n'est pas l'objet de ce culte. Mm-hmm. Alors, c'est sur cette note d'attention que se termine notre culte d'aujourd'hui. Merci Rivan pour
Merci
ce message qui nous invite à revisiter nos regards sur nous-mêmes, sur les femmes, et peut-être et continuer à voir en chacun l'importance que Dieu lui donne. Merci à vous les chroniqueurs pour vos apports. Et puis si ce culte t'a fait du bien, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. La semaine prochaine, un nouveau culte sur l'importance du baptême aux yeux de Dieu. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.